Parlez-vous, prof ? FLE, FOU, FOS, didactique sémantique numérique, phraséologie somatique, diversité linguistique. On en apprend tous les jours, mais toujours avec amour.
Francese este limba iubirii.
Le temps d'un congrès, nous sommes aujourd'hui dans la plus grande salle de profs de toute l'Europe, ici en Roumanie, à Bucarest, à l'université Politkovskaya, qui accueille le 4e congrès européen de la FIPF, Fédération internationale de profs de français, fédération présidée par Cynthia Ed. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un peu une chef de troupe, car la FIPF regroupe combien ? 200 associations dans à peu près 100 pays, c'est ça ?
Alors aujourd'hui, nous sommes à peu près à 300 associations, 299 associations plus précisément. C'est un réseau, la FIPF, c'est un réseau mondial de professeurs de français avec 220 000 adhérents sympathisants dans le monde, sur les 5 continents, dans 8 commissions. Et puis, c'est des millions et des millions d'apprenants à travers donc, les enseignants de français.
Donc, c'est presque une armée au service de l'enseignement du français.
Alors, moi, je dirais que c'est une armada, justement, au service de la langue française. Pour répondre, pour justement faire rayonner la langue française dans le monde.
Alors, c'est aussi un endroit assez stratégique pour voir l'évolution de ce métier. Et peut-être, ça pourrait être le sujet de cette émission, imaginer le prof du futur.
Absolument, pourquoi pas.
Vous y pensez à ça ?
Absolument. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les défis, avec les enjeux sociétaux de la langue française et des langues, du plurilinguisme d'ailleurs dans le monde, on ne peut que penser l'avenir. L'intelligence artificielle aujourd'hui a 2 ans et on l'imagine dans 50 ans ce qu'elle est capable de faire. Donc certainement, il faut qu'on se projette dans l'avenir puisque le français est une langue monde. Le français est une langue archipel, encore une fois. Et donc, on a nécessairement besoin de se projeter dans l'avenir.
D'ailleurs, l'avenir figure dans le sous-titre de ce congrès. Il s'agit de regarder ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi de se projeter dans l'avenir.
Absolument. Hein, donc, la langue, et notamment la langue française, est le reflet de la société. Et donc, si on sépare la langue de la société, on fait fausse route, je pense.
On va donc essayer d'imaginer avec vous et avec Monica Vlad, bonjour, ce que
bonjour.
Peut être le prof de français en 2050. Alors, vous êtes professeur à l'université de Ovidius, de Constanța. C'est à l'est de la Roumanie. Laissez-moi imaginer que depuis votre bureau, vous voyez la mer Noire. C'est vrai ou pas ?
Presque, presque. je peux la deviner, même si je ne la vois pas directement.
Alors, on a entendu quelques mots en roumain au tout début de l'émission. Qui disait quoi ?
Le français, langue de l'amour.
Alors, c'est vrai ou pas, le français, langue de l'amour ?
Ben, peut-être, oui, ça peut l'être. C'est pas faux, peut-être. Est-ce que c'est vrai toujours ? Ça dépend.
Est-ce que c'est un cliché, cette image ? On peut
sans
l'imaginer.
Doute, sans doute. Pour moi, ça l'est. C'est limitatif, c'est pour ça que je pense à un cliché quand vous me dites « langue de l'amour ». Non pas que ce ne soit pas vrai, mais qu'on ne peut pas limiter le français à cette image de la langue de l'amour. Je crois que le français est beaucoup plus que ça.
Vous avez combien d'étudiants francophones à l'université de Constanța ? Est-ce que s'ils viennent aussi pour... Et pourquoi ils viennent ? Est-ce que c'est pour compter fleurettes dans la langue de ronceur ?
Non, sans doute pas. Alors... vous avez posé 2 questions. D'abord, vous m'avez posé la question de combien d'étudiants francophones à Constanța. Déjà, c'est comme pour savoir ce que c'est qu'un francophone de nos jours, c'est un peu compliqué parce que ça n'est plus peut-être la même chose qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Être francophone aujourd'hui, c'est peut-être déjà être sensible à la langue française. Ce n'est peut-être plus parler le français comme on le parlait il y a 20 ans. Donc, si on compte le nombre d'étudiants sensibles à la langue française, désireux de l'apprendre, même à un niveau débutant, on a de nombreux étudiants à Constanța qui apprennent le français. Pourquoi ils viennent apprendre le français ? Sans doute pas pour compter fleurettes, mais parce qu'ils en ont besoin. Il y a beaucoup d'étudiants en médecine, par exemple, à Constanța. On a une faculté de médecine reconnue au plan international qui ont besoin du français parce qu'ils ont des projets de mobilité internationale. Et donc là, le français leur est indispensable. On a des étudiants en économie qui ont besoin du français pour leur projet de mobilité internationale. On a également des étudiants en lettres qui se destinent au métier de prof de français.
Donc c'est tout le débat et toute la différence entre le fou et le fausse que je nommais au tout début de l'émission. Décryptage, parce que pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu enseignant, fou et fausse, c'est tout à fait obscur.
Le fou, c'est le français sur objectif universitaire. C'est une étiquette qui est entrée relativement récemment dans le monde de la recherche sur le français et qui donc désigne le français qui est étudié par les étudiants, notamment dans le monde universitaire, pour des besoins académiques. Donc, à l'université, on fait un français spécifique parce que, justement, on étudie le français pour aller en classe, pour prendre des notes à l'université, pour écouter les cours. Et donc, c'est tout ça, le français sur objectif universitaire. Le FOSS, dont vous parliez tout à l'heure, c'est le français sur objectif spécifique, c'est-à-dire apprendre le français pour des objectifs orientés professionnellement, on va dire, même si c'est par des publics spécifiques, qui peuvent être des médecins, des ingénieurs, des économistes, pour des besoins très spécifiques liés à leur métier.
Et ça change tout ?
Ça change des choses, on va dire.
Alors, on va voir ce que ça change d'apprendre le français fou ou le français fausse. Mais Cynthia Head, est-ce que vous pensez que le français doit changer d'image pour abandonner justement le côté fleurette et joli cœur pour passer au scalpel?
Absolument en accord. C'est vrai que c'est très bien de parler littérature, mais pour des étudiants en langue étrangère, il faut que la langue soit dynamique, soit vivante, soit vraiment le reflet de ce qu'elle est réellement, cette langue monde, cette langue archipel, cette langue qui est de partage et en partage que
Donc,
nous avons.
Donc, abat le romantisme et vive l'efficacité, c'est un peu triste.
Non, pas ça du tout, c'est pas ce que j'ai dit, Pascal. Au contraire, c'est vraiment allier les deux en fonction de la cible, en fonction du public. Si on est en français langue maternelle, certainement ça a tout son sens, mais français langue étrangère, peut-être ne pas commencer avec Ronsard en salle de classe quand ils sont à niveau A1, peut-être pas, peut-être aller chercher qu'est-ce qui pourrait être intéressant chez Ronsard pour pouvoir l'amener. Mais on peut aussi amener le poème, on peut amener le slam, on peut amener plein des items qui sont très importants dans la langue française.
Pourquoi apprendre le français aujourd'hui et demain? Et si c'était pour comprendre Keo, une des stars de la chanson roumaine sur la playlist de RFI Roumania avec la chanteuse Alexandra Ugureanu, Frenchmania.
Unir le monde avec un poème de Verlaine, de Baudelaire, de Victor Hugo ou de Prévert. Danser sur les sons que l'on aime, les chansons de Kenji, de Gims ou de Jean-Louis Aubert. S'envoler vers un arc-en-ciel, couleur bleu, blanc, rouge, éternel, au-dessus de Paris, ville de lumière. Money.
c'est Alexandra Ungureanu sur RFI, French Mania, titre du morceau et d'un projet initié par l'Institut français pour inciter les jeunes à apprendre le français en les séduisant avec la chanson. Et visiblement, ça vous fait danser, Cynthia Head.
Absolument, c'est une chanson extraordinaire. Et je pense que c'est ce qu'il faut amener, c'est ce rythme qu'il faut amener en salle de classe.
Et Keo sera en concert pour la clôture du congrès de Bucarest ce samedi soir. Est-ce qu'il faut parler jeune aux apprenants, jeune en français, c'est-à-dire avec les formules qu'on peut entendre ici ou ailleurs, à la télévision, dans les médias, sur les réseaux sociaux, Monica Vlad?
Ça dépend à qui on s'adresse, ça dépend quelles sont les situations de communication dans lesquelles on vise l'apprentissage du français.
Alors, si on parle d'apprentissage du français, j'ai entendu dire, et ça se murmure beaucoup quand même dans les couloirs de ce congrès, qu'il y a une crise des vocations. Est-ce que vous la constatez l'une et l'autre, Cynthia Head?
Alors, en effet, il y a une crise de vocation, non seulement en langue française, mais dans le domaine de l'enseignement. Aujourd'hui, selon nos statistiques, on voit que les 3 à 5 premières années de vie expérientielle des enseignants, il y a des vocations qui partent, en fait. Il y a 30% à 40%, ça dépend des pays où on se trouve, ou des continents où on se trouve, ils quittent le métier. Justement, il y a aussi une crise par rapport à des personnes qui partent à la retraite également. Dans pas mal de régions, notamment dans les Amériques, un prof qui part à la retraite, une classe de français qui se ferme. Donc certainement, il y a une crise. Il y a juste ceux qui sont au milieu, les professeurs qui sont au milieu, mais qui tiennent la barre. Hein, donc, et on essaye justement, à la FIPF, de travailler sur des projets pour garder les enseignants qui veulent partir, les garder dans la famille francophone à travers les 100 métiers du français, donc un projet sur lequel on travaille, mais également un travail sur un projet de mentorat de jeunes enseignants. Parce que le mentorat aujourd'hui, c'est l'accompagnement. Quand un jeune enseignant arrive en salle de classe, il ne sait pas trop comment s'orienter. Les collègues n'ont pas toujours le temps de l'accompagner. Quelquefois, il ne sait même pas quand il va retoucher son salaire ou comment ça se passe. Donc, on a porté ce projet à la FIPF depuis 2019, un projet pilote dans plusieurs continents et plusieurs pays. Et ça donne des fruits, en fait. Je ne veux pas dire que c'est la panacée, mais c'est quand même important de s'appuyer sur des professeurs chevronnés, sur des professeurs qui peuvent dire, tiens, tu as un problème, tu peux m'en parler. Je ne vais pas te donner la réponse, mais peut-être je vais t'outiller, je vais peut-être marcher à côté de toi, te montrer le chemin pour que tu trouves la réponse.
Oui, c'est un projet que l'on a déjà évoqué hier, d'où l'importance de ce projet de mentorat. Si je vous comprends bien, on est à un tournant générationnel, là, dans la question de l'apprentissage du français, de la présence d'enseignants français.
Alors oui, aujourd'hui c'est un peu difficile dans le domaine de l'enseignement tout court. Hein, donc je reprends un collègue africain qui dans la salle a dit « Qui d'entre vous aujourd'hui souhaiterait avoir son fils ou sa fille devenir professeur de français ?»
Aïe.
Et c'est vrai, quand on pense à la question comme ça, on a besoin de valoriser le métier. C'est un beau métier, et je répète, c'est le plus beau métier du monde. Je voudrais que ça soit un métier, justement, duquel on est fier. Certainement, on est fier d'être enseignant de français, mais que la société soit fière également de ceux qui, justement, portent, changent la vie. Les professeurs de français, combien de fois on a entendu ce prof de français qui m'a changé la vie, qui m'a marqué. C'est pour cela que je suis devenue professeur de français. Et donc, on a besoin de travailler avec les gouvernements, avec les parlementaires francophones, pour que cette vocation continue et pour qu'elle soit valorisée davantage dans toutes les sociétés du monde.
Alors, on va voir pourquoi il y a cette crise, mais Monica Vlad, est-ce que vous la constatez aussi, cette crise des vocations ?
Sans doute, on la constate au niveau du nombre d'étudiants qui viennent faire des études de langue, de lettres, mais moi, j'ai un peu un autre... Je suis complètement d'accord avec Cynthia concernant cette crise des vocations. J'ai un peu un autre point de vue, le point de vue du chercheur qui essaye de se rendre compte du pourquoi. En tant que didacticienne, on fait des études, je fais des études avec mon équipe de doctorants à Constanza sur le pourquoi ça ne marche pas. Auprès des étudiants, des enseignants débutants, quelles sont leurs insécurités, quelles sont leurs peurs, pourquoi on ne veut plus être dans la classe. Et l'une des dimensions qui a été peu évoqué ces jours-ci et sur laquelle je vais insister justement demain dans ma prise de parole, c'est l'insécurité linguistique. Les profs aujourd'hui ont aussi peur de parler la langue. Ils ont besoin de mieux apprendre la langue qui est leur outil de communication. Et là, je pense que ça donne aussi une autre dimension au pourquoi on apprend le français. On apprend le français aussi pour devenir prof.
Donc, il y a un problème de formation des profs. C'est ça que vous dites?
Sans doute.
Que ce soit pour le fou ou pour le fausse.
Pour tout. Et on a besoin de... Justement, il y a un cercle vicieux. On a besoin de former les profs pour qu'ils deviennent de meilleurs profs et pour qu'ils forment de meilleurs élèves.
Alors, à quoi ressemblera un prof en 2050? J'ai posé la question ce matin à Michel Boiron, l'ancien directeur du Cavilam et pédagogue hors pair, qui aime à imaginer des futurs possibles.
Ce qui est certain, c'est qu'un professeur de français en 2050 sera multifonctionnel. Il saura faire énormément de choses. Il saura évidemment être habitué à utiliser les diverses innovations technologiques qui seront alors disponibles. Il saura aussi animer la classe et faire de cette classe un lieu de lien social, un lieu d'éveil à la curiosité. C'est-à-dire, c'est le rôle de l'école, le rôle de l'enseignement des langues et du français qui va être différent. Parce que ce travail servira justement à développer des compétences pour savoir s'exprimer, savoir présenter un problème, savoir comprendre une réponse, savoir travailler ensemble, par exemple.
Et il devra utiliser l'intelligence artificielle, forcément?
Alors, on ne sait pas. Aujourd'hui, en 2024, comment l'intelligence et les utilisations de l'intelligence artificielle vont évoluer, peut-être que dans 30 ans, 40 ans, on aura une puce qui sera intégrée au tympan et qui mettra en lien un individu immédiatement en contact avec les connaissances dont il a besoin. C'est-à-dire que peut-être on apprendra le français par plaisir, peut-être qu'on apprendra le français pour développer des compétences de style l'ouverture à l'altérité, l'ouverture aux cultures, au pluriel. Peut-être d'ailleurs que le français ne sera plus du tout le français comme on le conçoit aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une diversité à l'intérieur de ce français qui sera très grande et que le professeur de français sera justement un guide à l'intérieur de cette diversité.
Cynthia Ed, Monica Vlad, que pensez-vous de ces perspectives imaginées par Michel Boiron?
Absolument en phase avec Michel, et j'ajouterais justement que le professeur idéal, donc dans 30, 40, 50 ans, c'est toujours ce professeur qui garde le cœur, en fait. C'est le professeur humain avant tout. Avec toutes les intelligences artificielles, on a besoin justement, l'intelligence artificielle ne peut pas toucher le cœur. Pour le moment, elle peut toucher la connaissance, elle peut faire plein de choses extraordinaires, mais elle ne peut pas toucher le cœur. Et le professeur de 2050 gardera cet aspect humain, gardera ce regard qu'il jettera sur un étudiant et lui dit « oui, tu es capable, mon grand ». Mais également, c'est un professeur certainement qui devrait être le reflet également de l'évolution de sa société, avec tout ce qu'il amène à côté de l'humain qui est indispensable pour moi, qui apportera l'innovation certainement, et qui évolue avec ses apprenants et qui parlera le langage de ses apprenants également.
Donc il faudra apprendre à avoir du cœur. Monica Vlad.
Moi j'ai bien aimé le mot guide dans la présentation de Michel. Je trouve qu'effectivement le prof du futur devra garder ce côté accompagnateur, guide dans un monde qui va être de plus en plus mouvant.
Mais l'IA est un problème pour le corps enseignant ou c'est aujourd'hui un outil? Oui. Est-ce qu'il y a des réserves ou ça a été complètement adopté par le corps enseignant?
Alors, je crois que ce n'est pas encore suffisamment adopté. Non, je crois que les gens commencent à l'adopter. On ne peut pas faire sans, mais il y a encore un énorme apprentissage à faire là-dedans, dans la jungle, je crois, de l'intelligence artificielle.
Oui, et puis c'est une technologie encore assez neuve, donc il faut l'apprivoiser.
C'est ça, c'est un bébé qui a 2 ans aujourd'hui. Et donc, comme dans la société, les professeurs de français, à des degrés différents, ont adopté l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut prendre l'intelligence artificielle comme un allié pour les professeurs, comme un assistant, parce que c'est vrai qu'on travaille seul et on a toujours rêvé d'avoir des assistants. Ben, c'est le rêve idéal d'avoir l'intelligence artificielle à côté de nous, mais surtout d'amener les apprenants à savoir dialoguer avec l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le défi et le défi de futur, ce ne serait pas de faire une belle rédaction, mais de savoir vraiment poser les bonnes questions, de pouvoir avoir cette réflexion critique et de pouvoir défier la machine pour justement... Et on a besoin d'accompagner les apprenants sur ces questions-là.
Alors, si on poursuit cette rêverie sur l'avenir, est-ce que l'avenir de la francophonie est lié à l'enseignement du français langue étrangère?
Absolument.
Question qui vaut pour la Roumanie, mais aussi pour l'ensemble des pays francophones, Afrique comprise.
Moi, je dirais absolument. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, et je ne le répéterai pas assez, les professeurs de français sur le terrain sont les réels ambassadeurs et ambassadrices de la langue française. En discutant avec le Parlement francophone, je disais, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette crise de vocation? Et justement, si les enseignants sont... Parce qu'on considère que les enseignants de français sont toujours là. Et ce sont eux qui vont donner l'envie ou pas d'apprendre la langue française. Donc ce sont eux vraiment... La cheville ouvrière dans le quotidien pour faire rayonner la langue française.
Mais vous savez aussi que la francophonie est très critiquée. Le français, l'influence française est aussi mise à distance, notamment dans les pays francophones où le français est parfois une langue, non pas native, mais en tout cas une langue d'éducation.
Le français, c'est le français de la langue monde. Le français, c'est le français de France, le français de l'Afrique, le français du Canada, le français de Belgique. C'est un français polyphone, c'est un français polymorphe. Donc certes, il pourrait être critiqué dans des situations politiques en ce qui concerne un pays en particulier, mais la francophonie, c'est un monde extraordinaire qui ouvre des horizons. Et je pense, dans ce sens-là, sur toute la diversité que la francophonie nous amène, nos francophonies plurielles, j'ai envie de dire, nos francophonies qui peuvent ouvrir des fenêtres et des portes sur le monde, je pense qu'on ne peut qu'adhérer aux francophonies plurielles du monde.
Vous auriez 15 ans aujourd'hui, est-ce que vous recommenceriez? Est-ce que vous auriez envie d'être prof de français ou vous diriez oui à vos parents, j'aimerais être influenceuse ou youtubeuse?
De toute façon, j'aimerais bien être prof. Prof de français, oui, sans doute.
Aujourd'hui encore,
oui, et sans aucune hésitation.
Ben voilà, la cause n'est pas perdue, Cynthia Head. Alors, ce qui est formidable dans un congrès comme celui-ci, c'est de rencontrer, sans la barrière de la langue, toute une série de profs, un prof libyen, une enseignante africaine qui vit au Québec, un auteur tunisien qui se souvient de sa première institutrice en français, ou encore une jeune enseignante kazakh venue seulement accompagnée de la présidente de l'association kazakh des profs de français. Elle s'appelle Adeline, apprend le français débutant à l'université et elle témoigne d'un début d'engouement du français dans son pays.
C'est très populaire parce que nous avons à l'université la deuxième langue étrangère, c'est l'allemand. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui choisissent français comme langue étrangère, deuxième langue étrangère. Et l'année prochaine, peut-être nous avons deux groupes de français pour les Kazakhs. C'est pour lire, pour voyager. Il sait que c'est la cinquième langue du monde. Et je sais que les plus populaires céréales américaines, Emily in Paris, les étudiants aiment beaucoup cette série.
Quel est le plus beau mot de la langue française pour vous?
Magnifique. J'aime beaucoup ce mot. Et aussi, j'aime beaucoup les phrases. Revenons à nos moutons. J'aime beaucoup.
Revenons à nos moutons, une expression française. Et alors moi, je ne sais pas pour vous, mais moi j'imagine les grandes steppes désertes de ce pays balayées par les vents et cette jeune prof qui aime cette expression. Cynthia, on parle d'un congrès européen, mais en fait cela va bien au-delà parce que le Kazakhstan ne fait pas partie de l'Europe en tant que telle.
Absolument. Donc comme je le répète, les congrès de la FIPF sont des congrès répartis sur des régions du monde. Aujourd'hui, c'est Bucarest qui nous accueille pour le congrès européen, mais tous les congrès de la FIPF sont ouverts au monde en fait, hein, donc qui accueillent des gens du monde entier. Et aujourd'hui, on aura à la clôture le nombre de nationalités, mais aujourd'hui, on a dépassé dans nos statistiques les 55 nationalités présentes ici, au-delà de donc européennes, mais au-delà de l'Europe également. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je l'aurai à la clôture.
Sans exclusive.
Oui.
Parlant de francophonie, est-ce que vous voyez la géographie de cette francophonie évoluer dans les 50 prochaines années, Monica Vlad?
Ça peut évoluer dans les deux sens, mais je suis plutôt optimiste si on arrive à dépasser justement cette crise de vocation dans les pays dans lesquels le français est langue étrangère.
C'est-à-dire pas forcément... C'est-à-dire beaucoup de pays quand même.
C'est-à-dire énormément de pays.
Parce que même les pays d'Afrique francophone, le français est une langue étrangère aussi par rapport aux langues maternelles.
Oui, là, il est plutôt langue seconde, on va dire. Mais il y a
c'est-à-dire langue d'enseignement, donc il a quand même un autre statut que dans nos pays, par exemple, de l'Europe centrale et orientale, dans lesquels il est vraiment langue étrangère, étudiée uniquement à l'école.
Et justement, moi, je pense également qu'il y a une augmentation de nombre de locuteurs aujourd'hui. Mm-hmm. Hein, donc déjà, les statistiques de l'OIF nous disent qu'en 2050, il y a 700 millions donc, de locuteurs francophones. Donc assurément, moi, je pense que la francophonie continuera. D'ailleurs, même dans ce congrès, plusieurs pays sont venus nous demander comment est-ce qu'on peut devenir pays observateur donc, dans le monde de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc je pense il y a cet enthousiasme avec le Brésil aussi. On a travaillé pendant des années également pour arriver à ce statut. Donc je pense que oui, le monde parlera français, j'ai envie de dire, comme le dit Roger Fillon.
Donc plus de locuteurs, même s'ils ne peuvent pas tous déclamer du ronsard. Alors, engouement au Kazakhstan, selon cette jeune prof, repli en Croatie. Voilà ce que je pourrais dire au gré de mes conversations lors de ce congrès, avec notamment la rencontre de deux jeunes femmes, deux jeunes profs croates, Katarina Gubo et Ivana Veplé.
Dans mon école primaire, on a eu le français. Et dès que j'ai commencé à apprendre le français, j'ai tombé amoureuse. Et voilà, c'est devenu ma profession.
Ça s'explique, l'amour ?
C'est l'amour de la langue, de la musique, de la littérature, donc voilà, beaucoup de choses, tout en langue française.
Quel est votre auteur préféré, votre artiste préféré en français?
Bon, ça, c'est une question vraiment difficile, mais maintenant, après l'Eurovision, c'est Slimane. J'écoute toujours sa musique. Concernant le français en Croatie, plutôt le nord de Croatie a un plus grand nombre d'élèves qui sont intéressés par la langue française, mais aussi une partie de sud. Ben, ça dépend aussi de ce qui est actuel au monde entier, s'il y a une chanson française qui est actuelle ou quelque chose de la mode française. Donc ça dépend des années et ce qui est actuel en cette année, comment la langue va progresser. Voilà.
Donc les JO, c'est bon pour le français par exemple?
Voilà, c'est ça.
De l'influence des Jeux Olympiques. Vous y croyez, Cynthia Ed?
Oui, j'y crois énormément. Et d'ailleurs, la FIPF a travaillé avec le Cavilam sur un kit pédagogique justement pour ramener le sport en salle de français. Parce que c'est naturel d'emmener la chanson. On l'a entendu tout à l'heure avec Slimane et d'autres. C'est naturel d'emmener le théâtre, etc. Mais le sport, jusqu'à présent, il a du mal à rentrer dans la salle de classe. Et donc, aussi, on voit qu'en 2018, quand il y a eu la Coupe du Monde, on a vu une croissance importante de locuteurs donc francophones qui ont voulu apprendre la langue française. Et je pense que les Jeux Olympiques également, avec tout l'émerveillement qu'ils nous ont amené et les Jeux Paralympiques. Donc, c'est pas la fin, c'est le début de faire rentrer justement le sport en salle de classe. Et le kit est là pour accompagner les enseignants. Il est gratuit en ligne, il est ludique, il est extraordinaire.
De l'influence et de l'importance surtout du sport, mais aussi de l'actualité en général, parce que par exemple, les apprenants qui écoutent la radio et notamment le journal en français facile sur RFI sont aussi très familiarisé avec des mots de l'actualité comme Matignon, attente, suspense, etc. etc. Merci beaucoup Cynthia Ed, merci Monica Vlad en direct de ce 4e congrès de la FIPF qui se tient jusqu'au 7 septembre. De vive voix Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation et un grand merci à Edouard Vasilike et à toute l'équipe de RFI Roumania qui nous accueille le temps de ce congrès. Et bien sûr, vous retrouvez Adrien Delgrange qui est avec nous à Bucarest pour le journal en français facile. Avec lui, parler français, c'est cool et c'est clair. Bonne fin de journée à l'écoute de RFI.